À la découverte du monde diversifié des journalistes, une émission des élèves du lycée Lascaz pendant la semaine de la presse et des médias.
Bonjour à vous, nous espérons que vous êtes bien installés. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission consacrée à la presse dans le cadre de cet après-midi appelé Après-Média.
Nous sommes les élèves AGGSP, autrement dit Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques, du lycée Lascaz de Lavaur. Aujourd'hui, on enregistre cette émission depuis le CDI. À nos côtés, trois invités, Louef Popper, Jérôme Sier et Claire Cache-Couche-Soucy. On pense à vous, chers auditeurs et auditrices.
Je suis Gabriel et je vais vous présenter l'émission avec Louis. Bonjour Louis.
Bonjour tout le monde. Allez, c'est parti. Merci d'être avec nous sur Air de Temps. On commence tout de suite avec Louef Popper, interviewé par Gabriel.
Bonjour. Du coup, pour commencer cette interview, depuis combien de temps êtes-vous journaliste ?
Alors, ça va faire presque 10 ans, 9 cette année. Le temps passe.
Et alors, vous êtes immédiatement spécialisé dans l'environnement ou c'est quelque chose qui est venu après ?
Non, j'étais pas du tout spécialiste de l'environnement quand j'ai débuté. En fait, au départ, j'étais journaliste littéraire, donc je faisais des chroniques de livres et des enquêtes sur le monde de l'édition. Après, j'ai fait un peu de journalisme économique, donc je faisais l'actualité des entreprises. Et ensuite, je suis partie vivre en Écosse. Et là, c'est là que j'ai commencé à écrire sur l'environnement, sur l'écologie. Et j'ai eu de la chance parce qu'au cours de ces années-là, il y a eu la COP26 qui était à Glasgow et que j'ai pu couvrir. C'est à cette époque-là que j'ai changé mon fusil d'épaule et que je suis devenue journaliste écologie.
Pouvez-vous nous parler plus en détail du statut de pigiste ?
Oui, alors le statut de pigiste, c'est un statut un peu particulier, c'est-à-dire que contrairement à la majorité des journalistes qui sont dans des rédactions, qui sont installés dans des rédactions, moi je suis indépendante, c'est-à-dire que je peux travailler pour plusieurs médias à la fois. C'est-à-dire que je peux écrire un article pour Alternative Économique, qui est mon employeur principal, mais aussi pour de la presse spécialisée sur les énergies renouvelables, sur un petit média local. En fait, je peux travailler pour autant d'employeurs que je veux.
Et vous travaillez pour un média en particulier en ce moment ?
Alors oui, j'ai trois employeurs principaux. Donc le premier, c'est Alternative Économique, qui est à l'origine un mensuel sur l'économie et qui a aussi un site internet. Je travaille pour le Journal des énergies renouvelables, qui est un magazine spécialisé sur ces questions-là. Et pour Chouette, le magazine, qui est un petit trimestriel qui couvre l'actualité associative et culturelle autour d'Albi.
Quelles contraintes voyez-vous à travailler avec un journal ?
Le salaire. Non, plus sérieusement, en fait, être pigiste, c'est une grande liberté, mais c'est aussi une grande précarité. Donc il faut avoir le cœur bien accroché et les reins solides parce qu'on ne sait pas tous les mois si on va avoir suffisamment d'argent pour payer son loyer.
Votre métier, il vous pousse à vous déplacer ?
Oui, parce que je fais des reportages, mais pour être honnête, j'aimerais bien me déplacer plus. Avant, je faisais plus de reportages, notamment quand j'étais à l'étranger. Et malheureusement, la presse écrite ne va pas très bien, donc elle a tendance à avoir des contraintes budgétaires fortes, qui fait que les journaux sont de plus en plus en difficulté pour financer des reportages, malheureusement.
Trouvez-vous votre travail difficile, du coup ?
Ça va. Avec les années, ça va mieux. Quand j'ai démarré, oui, j'étais très stressée. Je ne me sentais pas légitime de faire ce travail parce que je n'avais pas fait d'école de journalisme. Aujourd'hui, non, c'est essentiellement les problématiques liées à l'argent, en fait, que je trouve compliquées. Et à cette difficulté à être sur le terrain, parce que je trouve que les rédactions ont tendance à moins commander des reportages. Et souvent, ça me rend un peu triste de devoir faire des articles derrière mon écran d'ordinateur.
Vous mettez beaucoup de temps pour rédiger un article ?
Ça dépend. Ça dépend si on me commande une enquête fouillée, oui. Si on me commande une interview où j'ai juste à appeler quelqu'un et puis à retranscrire ce qu'il m'a dit, ça prend pas très longtemps.
Ben, merci beaucoup à vous pour cet échange.
Merci à vous.
On poursuit l'émission sur Air d'OTAN avec notre prochain invité Jérôme Sier, interviewé par moi-même et par Lucie. Bonjour Jérôme Sier.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous voir sur le plateau.
Tout pareil.
Dans quel environnement travaillez-vous ?
Environnement physique, j'ai un bureau dans un espace partagé à Rabastens, pas loin d'ici. Parce qu'au départ, je travaillais chez moi, comme beaucoup de... Je suis pigiste également, moi aussi. Comme beaucoup d'indépendants, je travaillais chez moi. Puis très vite, il faut faire la séparation entre le domicile et le travail. Donc j'ai un bureau où je passe beaucoup, beaucoup de temps.
Et au niveau de vos caricatures, ça se passe comment ?
Eh bien, je ne fais pas que de la caricature, mais j'en fais. En fait, je travaille pour beaucoup de journaux très différents, que ce soit des journaux pour les enfants dès 8 ans, beaucoup pour la presse ado, Okapi, Phosphore, Géoado, Je Bouquine, Le Monde des Ados, etc. Et puis, je fais de la caricature, effectivement, pour les plus grands, dans des journaux comme Ciné Mensuel, qui est un journal satirique, où là, j'ai une liberté à 3000%. Et puis, je travaille parfois pour des sites internet comme Mediapart, des choses comme ça. Quand j'ai travaillé pour la Dépêche du Midi il y a de nombreuses années, bon ben on peut effectivement faire de la caricature, mais en prenant des pincettes, on va dire. Tout est question de dialogue, d'échange, de conversation. Un dessin, c'est un langage. Et selon à quelle personne on s'adresse, selon qu'elle a 8 ans, 15 ans, 18, 50, ou qu'elle soit habituée à lire des caricatures ou pas du tout, eh ben on doit adapter ce langage-là. Voilà.
D'où vous vient votre inspiration ?
Du monde autour de moi. Le principe de la caricature, c'est celui-là, c'est de décrire le monde. C'est un travail de journaliste. Hein. Nous sommes des journalistes, j'ai une carte de presse, comme pas mal de mes collègues, sauf que je vais utiliser le dessin et non pas les mots pour parler des journalistes de presse écrite, mais pour faire exactement le même travail. Le même travail, c'est quoi ? Ben, c'est de regarder le monde, trouver les infos, vérifier qu'elles soient vraies d'abord, et puis surtout les analyser, les décrypter. Parce que les rendre lisibles, parce que justement le monde dans lequel on vit, il n'est pas toujours très lisible. Alors que pourtant tout s'explique, pourquoi il y a une guerre qui naît dans tel pays, pourquoi il y a des gens qui dorment à la rue alors qu'on est dans un pays riche, tout s'explique. Et nous, nous dessinateurs et dessinatrices, et on doit en un seul petit dessin résumer ce que pourrait dire un long article. Voilà.
Y a-t-il des thèmes de prédilection sur lesquels vous préférez travailler ?
Oui, moi j'aime beaucoup travailler justement sur... L'actualité politique ou géopolitique, parce que justement, je trouve que c'est là qu'on a toute notre valeur, qu'on a des choses à dire, des choses à exprimer. Maintenant, il faut être prêt à dessiner sur tous les sujets et pour tous les publics. Je ne fais pas du tout, comme je disais tout à l'heure, les mêmes dessins pour les enfants ou les collégiens que je le fais pour les adultes. Mais en tout cas, oui, ces thèmes de prédilection, ben, ils permettent justement d'expliciter le monde. Et je crois que si on choisit ce métier, pour tous les journalistes ou les artistes, même autour de moi, le diront. C'est pour apporter notre pierre à cet exercice démocratique qui est l'information. Voilà.
Est-ce qu'on vous commande vos caricatures ou vous les vendez déjà faites à des journaux ?
Non, ce sont des commandes, ce sont des journaux qui m'appellent pour illustrer tel ou tel article ou me laisser carte blanche quand il s'agit de Ciné Mensuel. Comme je disais, c'est un journal où on est très très libre. Mais non, la plupart du temps, ce sont des commandes, même si à côté de ça, moi, je ne peux pas m'empêcher de dessiner tout le temps. Tout le temps, et même quand on ne me le demande pas. Donc voilà, mais sur les réseaux sociaux, j'abreuve mes comptes de mes réactions à l'actualité, même si aucun journal ne publiera le dessin, au moins il existe. Voilà.
Quel est le message que vous faites passer à travers vos caricatures ?
C'est une bonne question, parce que faut-il faire passer un message ? En tant que journaliste, on est censé être objectif, mais... on a un rôle d'éditorialiste, un peu comme les gens qui passent sur les chaînes de télévision en continu, qui nous expliquent comment il faut vivre. On essaie de faire ça avec bienveillance, mais on essaie, ben oui, d'apporter une vision du monde. La vision du monde, elle est celle que nous a appris notre culture. On a baigné dans une culture française, héritée de la... Révolution française. Hein. On est vraiment tous issus, notre 21e siècle est issu encore en France et issu du monde des Lumières. Donc on est encore en train de défendre la liberté, l'égalité, la fraternité et d'être toujours du côté du plus faible contre le plus fort. Ça, c'est le credo de la caricature, en tout cas en France, depuis des siècles. Et ça continue à l'être aujourd'hui, je crois.
Est-ce que vous direz qu'il faut savoir bien dessiner pour faire votre travail ?
Ah, ça, c'est aussi c'est une bonne question, parce qu'en fait, le plus important, il y a des dessinateurs qui nous ont prouvé que non, on pouvait très mal dessiner, mais si on avait une idée géniale, ça suffisait. Ça a été le cas d'un dessinateur qui s'appelait Rezer dans les années 60, 70, 80. Plus récemment, d'un autre qui s'appelait Mix et Remix. Rezer dessinait de façon très trash, comme ça, très jetée. Mix et Remix, dessinateur suisse, formidable. Décédé il y a peu, qui avait un dessin très minimal comme ça. Mais leurs idées étaient tellement géniales que ben voilà, ça supplantait tout. Il ne suffisait pas de dessiner. On peut avoir des dessins très beaux, très bien dessinés, mais qui ne disent rien. Donc c'est cette alchimie entre les deux qui fait qu'un dessin est réussi. Mais de toute façon, je pense qu'un dessin réussi, c'est le dessin qui dit, qui montre le moins de choses. Voilà, qui est dans l'économie de mots, l'économie de traits. S'il n'a aucun mot, s'il est muet, c'est encore mieux. Il est universel, il peut être compris par la plupart des gens. Et moins on met de choses, plus le dessin est fort. Plus il suggère et moins il montre, et plus il est fort.
Est-ce que c'est une passion avant d'être un métier caricaturiste ?
Oui. C'est ce qu'on appelle les métiers passion. Ça permet d'être moins bien payé parce qu'on dit oh, ça va, c'est un métier passion, t'es mal payé, mais tu fais ce que tu aimes. Plus sérieusement, ouais, moi depuis toujours, je veux être dessinateur. Et ça, c'est une anecdote que je raconte souvent, c'est qu'en troisième, quand on t'emmène voir le conseiller d'orientation et qui me demandait, moi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Et moi, depuis tout petit, je veux être dessinateur. Donc quand je lui ai dit dessinateur, il m'a répondu oui, mais d'accord, mais comme métier, je veux dire, plus tard, qu'est-ce que tu veux faire ? Et ça, voilà, ça m'a marqué. Et je me suis dit, mais toi, mon coco, tu vas pas m'impressionner. Et aujourd'hui, je suis dessinateur. Donc ça, c'est un conseil que je donne à tous les jeunes que je croise. N'écoutez pas toujours les adultes. Et faites surtout ce que vous avez envie de faire. Si vous avez un rêve, une passion, c'est accessible. Même si on vous dit, c'est pas ton milieu, t'as pas l'argent pour ça, c'est trop compliqué. Non, si vous y travaillez, parce que c'est du travail. Et si vous gardez ça chevillé au corps, ben vous pourrez y arriver. Il ne faut jamais renoncer à ses rêves.
C'est un beau message, mais pour finir, est-ce que vous diriez que certaines de vos caricatures ont-elles déjà suscité la critique ?
Oui, mais c'est aussi le but. Il faut qu'une caricature suscite la critique. Ça veut dire qu'elle touche son but, qu'elle remplit sa mission. Si elle ne le fait pas, si tout le monde est d'accord, ben, ce n'est pas très intéressant. On est quand même dans cette culture, avec la caricature, de l'irrévérence, de la subversion. Donc oui, bien sûr, il faut asticoter, voire rentrer dedans. Il y avait un grand journaliste, créateur d'Harakiri de Charlie Hebdo, Cavana, qui disait « un dessin, c'est un coup de poing dans la gueule ». Je ne suis pas convaincu que ça soit toujours, que ça doit être ça tout le temps, mais ça peut l'être. Et oui, bien sûr qu'il y a des critiques encore. Ben voilà, aujourd'hui, là, ces temps-ci, je ne sais pas pourquoi. Il y a un dessin que j'ai fait, pouf, au mois de janvier, et qui est repris en cœur, qui suscite beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux. C'est un dessin qui critiquait Elon Musk après son salut nazi, là. Et j'avais fait un dessin spontanément à ce moment-là, et bon, qui est passé, bon voilà, les gens ont réagi, mais bon. Et là, je vois qu'il est diffusé, il doit être partagé par des gens à l'étranger, parce que je reçois plein de messages d'Américains, de fachos américains, de Trumpistes qui sont outrés, d'Amérique, du Paraguay ou de Hollande. C'est marrant, les réseaux sociaux, on est en prise directe avec le monde, comme ça, directement. Mais oui, comme quoi, ça crée des réactions, et bah, une fois de plus, c'est tant mieux.
Merci d'être venu sur le plateau
merci pour vos questions.
On est toujours sur Air d'OTAN, merci de nous écouter.
Vous êtes bien sur Air d'OTAN, à la découverte du monde diversifié des journalistes, une émission des élèves du lycée Lascaz pendant la semaine de la presse et des médias.
Et on continue l'émission avec notre troisième et dernière invitée, Claire Cache-Couche-Soucy, interviewée par Anaëlle.
Bonjour Claire.
Bonjour Anaëlle.
Pourquoi avoir choisi le métier de journaliste ?
Eh bien, c'est né quand j'étais en primaire. J'avais lu un livre de la Bibliothèque Verte et il y avait une reporter. J'ai un peu rêvé d'avoir sa vie. Alors, ce n'est pas tout à fait sa vie que j'ai parce qu'elle était reporter de guerre. Et moi, je travaille pour la radio Air d'OTAN. c'est un peu différent. Mais en tout cas, je suis curieuse, j'aime beaucoup les histoires et me questionner sur comment les transmettre. Et j'aime pouvoir aller dans plein d'univers différents. Et ce métier-là, il le permet.
Pourquoi avoir choisi de travailler à Air de Temps ?
Eh bien, j'habitais dans le coin, j'ai commencé bénévolement et puis petit à petit, ça m'a, enfin, l'envie, elle a vraiment grandi. L'équipe a trouvé que ce que je proposais, c'était chouette. À l'époque, en parallèle, j'écrivais pour des articles aussi pour la presse spécialisée en agriculture biologique, parce qu'avant de travailler dans le journalisme, j'ai beaucoup travaillé dans l'agriculture. Et voilà, ça s'est un peu fait petit à petit, une histoire de rencontres, d'opportunités. Mais au préalable, j'avais aussi beaucoup écrit dans des journaux de quartier, des journaux militants, comme Saxifrage, qui existe aussi dans le Tarn. Voilà, avant d'être payée pour faire ce métier, j'avais fait ça aussi bénévolement.
En quoi consiste le métier de journaliste dans ce média ?
Eh bien, dans ce média, en fait, il y a plusieurs formes de journalisme. Au début, moi, j'ai commencé à faire le journal de la rédaction. C'est un journal qui passe tous les jours, du lundi au vendredi. Donc là, on donne la parole à plein de personnes différentes. On essaye de leur faire nous raconter ce qui les met en action, ce qu'ils et elles proposent un peu au présent, on va dire. Et puis, petit à petit, je me suis un peu spécialisée sur des formats plus longs, des formats de 28 minutes, avec un peu moins de l'actualité chaude de ce qui se passe vraiment maintenant, mais plus pour réfléchir ce qui se passe dans les temps présents, avec un peu plus de temps et en laissant un peu plus la parole aux personnes, en mettant des paroles côte à côte, en les faisant dialoguer.
Et comment trouvez-vous les gens à interviewer ?
Eh bien, de manière plurielle, il y a à la fois plein de gens qui écrivent sur les boîtes mail de la radio Air d'Otan. Et puis, en lisant la presse, en écoutant la radio, les autres radios, des podcasts. Et puis, parfois, c'est aussi en sortant au marché, en allant sur des événements le soir, les week-ends. Eh bien, il y a des rencontres. Et puis, déjà, en fait, tout le monde a des trucs vraiment intéressants à raconter. C'est même plutôt l'embarras des choix. Ouais, il faut choisir où est-ce qu'on va mettre le focus. Voilà, c'est donc assez pluriel.
Et donc, comment vous vous prenez pour poser des questions aux gens en particulier ?
Alors, comment je m'y prends pour poser des questions ? Bah, la plupart du temps, déjà, je prépare le sujet, je me documente, je prépare mes questions presque tout le temps par écrit. Je peux pas trop avoir une grande liste, j'ai griffonné quelques mots, ou le fait de m'être immergée et avoir fait ce travail, ben du coup je l'ai intégré dans ma tête. Et après, quand je rencontre la personne, ben j'essaye globalement de la mettre à l'aise, de la rassurer. Et puis au-delà des mots, il y a aussi une présence, une posture, de regarder les gens dans les yeux, d'acquiescer avec le corps, enfin de leur montrer que ce qu'ils ont à dire m'intéresse.
Et quelles sont les coulisses d'un documentaire ?
Alors un documentaire, c'est souvent un format qui nécessite plus de temps. Ça s'étale souvent sur un temps plus long. Donc il y a un gros travail de préparation, de lecture, d'écoute, de repérer les personnes, de les appeler peut-être. Enfin moi je fais ça en tout cas, de les rencontrer avant de les enregistrer. Et après de les enregistrer, avec cet enregistrement, je dérush, donc je note à quel moment elle dit quoi. Et après, je fais une écriture sonore, donc je vais essayer de choisir ce que je vais garder dans un montage. Et puis, une fois que dans mon banc de montage, comme ça, j'ai choisi les différents morceaux et passages du documentaire, il y a aussi toute une esthétique. Donc, quelles ambiances je vais garder pour faire comprendre à où est-ce qu'on se trouve et qu'est-ce que cette ambiance raconte, quelle musique je vais choisir, est-ce que je vais faire une voix off ou pas, quelle transition je vais faire. Voilà, donc il y a tout un travail finalement d'écriture sonore pour donner du sens à cette narration, à ce documentaire.
Et du coup, quelles sont les conditions nécessaires pour réaliser un bon enregistrement ?
un bon enregistrement, eh bien, on dit souvent qu'il faut mettre un casque pour enregistrer. Alors ça, au-delà de cette grande croyance de « il faut mettre un casque », c'est parce que nous, quand on est avec nos oreilles, quand on est quelque part, s'il y a des bruits un peu parasites, notre cerveau, il a la capacité de faire abstraction de tout ça. Alors que le micro, lui, bah, il va prendre les sons. Donc quand on est au casque, on entend vraiment ce que le micro il va enregistrer. Donc s'il y a une cafetière électrique, un frigo, ben, du coup on va en être conscient. Et donc ben, nous en tant que preneurs de son, on doit vraiment faire en sorte qu'il y ait des bonnes conditions. Donc il faut qu'on ose dire à la personne soit qu'on change d'endroit, soit est-ce qu'elle pourrait couper son frigo le temps qu'on l'enregistre. Si on est dans un endroit où il y a les bruits de la rue, ben, peut-être tourner dans un sens pour que le micro il prenne plutôt la voix avec un mur plutôt que la rue derrière. C'est faire en sorte qu'on crée des bonnes conditions comme ça. Et c'est assez physique en fait, voilà, de comment on va se positionner avec notre micro. Et puis s'il y a du vent, vraiment essayer de s'abriter de cet élément qu'on n'aime pas du tout quand on fait des enregistrements.
Et du coup, jusqu'où votre radio part-elle faire des reportages?
Alors, notre radio, Air d'Otan ou Air d'Otan Gaillac, c'est beaucoup orienté entre Albi et le sud-ouest du Tarn. Mais il arrive aussi qu'on aille jusqu'à Mazamé, la Montagne Noire, enfin, en gros, tout le département du Tarn. Et puis, de manière plus exceptionnelle, on va aller en Aveyron, parfois dans les Pyrénées. Et puis, de manière encore plus exceptionnelle, ben, moi, si je suis à Paris ou en Normandie et que je fais une rencontre géniale, eh ben, j'ai toujours de quoi enregistrer et j'hésite pas pour ramener ça pour les gens qui nous écoutent ici, dans le Tarn.
Et quels sont les sujets principaux de cette radio ?
Eh bien, comme c'est une radio associative, en plus de l'équipe salariée, en fait, tout le monde, ça pourrait même être vous, tout le monde peut venir avec un projet d'émission. Il y a beaucoup de bénévoles qui s'intéressent à la musique, qui vont faire des plateaux sur des gros festivals, à Pause Guitare, aux Arséniques, enfin voilà, dans les festivals du coin. Il y en a d'autres, ils sont passionnés par le sport, donc eux, ils vont à la rencontre des sportives et des sportifs. D'autres, ça va être plutôt de la politique. Enfin voilà, c'est très 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 varié. Et nous, sur l'équipe salariée, notre, ce qu'on appellerait un peu notre ligne éditoriale, la couleur, eh ben, c'est essayer de donner la parole au plus grand nombre. Mais globalement, on a des petites choses qui nous animent fort, de s'intéresser un peu à ce qui se passe en matière d'environnement, de lutte contre les discriminations racistes, sexistes, homophobes, de voir comment les gens se saisissent de leurs droits, se défendent aussi des oppressions. Voilà, et puis on s'intéresse aussi un peu à la vie économique, comment sur notre territoire on peut gagner sa croûte. Ça nous intéresse aussi, voilà, c'est assez varié, et puis une grosse place pour la culture.
Et du coup, comment vous choisissez certains sujets parmi d'autres ?
Ouais, ça c'est vrai que c'est un peu l'embarras du choix, surtout qu'on n'est pas si nombreuses et si nombreux. Et ben, on essaye de, voilà, de penser un peu l'équilibre dans la diversité des sujets, des personnes avec qui on a des partenariats, des choses qui parfois vont nous sembler plus originales. Voilà, il n'y a pas vraiment de recette magique, on en discute ensemble et puis on y va.
Et donc, quelle formation est nécessaire pour faire votre métier ?
Eh bien, on pourrait tout à fait faire ce métier après avoir fait une école de journalisme, mais on peut aussi faire ce métier après avoir étudié les sciences humaines, après avoir vécu plein de choses et s'être formé en éducation populaire, après avoir fait partie de groupes, de collectifs de radio ou de petits journaux, peut-être par exemple comme ici à la Gazetas du lycée. Et ben, je pense que dans ce petit journal, vous apprenez aussi plein de choses. Donc voilà, en fait les journalistes, ils apprennent aussi beaucoup sur le terrain. Et par contre, ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on fait ce métier-là, eh ben oui, on s'expose, donc on reçoit des critiques, on s'interroge sur qu'est-ce que ça raconte ces critiques, et on essaye de, voilà, d'analyser nos pratiques, de se remettre en question, et ouais, d'avancer comme ça. On peut aussi se former sur des formations courtes un peu chaque année, d'être dans une démarche d'apprentissage au fil de la vie.
Merci d'avoir répondu à mes questions. Bonne journée à vous.
Merci à vous.
L'émission touche à sa fin. Vous avez appris des choses, nous aussi.
Merci de nous avoir écoutés. Merci aussi à nos invités, Lou F. Popper, Jérôme Sillé et Claire Cache-Couche-Souci. Merci à nos professeurs qui nous ont accompagnés, à savoir Madame Fleury, Madame Blom, Madame Cadars. Enfin, merci à l'administration de l'établissement.
Merci à Thomas de Radio Air d'Otan, notre super monteur. Bonne fin de semaine, profitez de la vie et des beaux jours qui arrivent et prenez soin de vous.
À la découverte du monde diversifié des journalistes, une émission des élèves du lycée Lascaz pendant la semaine de la presse et des médias.